Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la situation en Syrie et en Irak. Au début du mois d'avril, le président américain ordonnait le bombardement d'une base aérienne du régime syrien en représailles à l'attaque chimique perpétrée deux jours plus tôt qui avait fait près d'une centaine de victimes parmi les civils syriens. Avec cette frappe limitée, l'Amérique est revenue au centre du jeu dans lequel elle avait cédé l'initiative stratégique à la diplomatie puis aux armées russes après le demi-tour d'Obama en août 2013. Reste à savoir ce que Washington fera de ce retour. En attendant, cette semaine, ce fut au tour d'Israël d'intervenir en bombardant un dépôt utilisé par le Hezbollah libanais près de l'aéroport de Damas, par lequel transitent des armes en provenance d'Iran. La Turquie a elle aussi mené des frappes contre des forces kurdes dans le nord de la Syrie et en Irak. En Irak, où la reconquête de Mossoul commençait il y a 7 mois, enregistre du retard. Regard sur la situation avec nos invités. Myriam Benrad, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Limerick en Irlande, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître le 17 mai prochain, L'État islamique pris au mot, aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Bonjour.
Bonjour.
Gérard Chalion, géopoliticien, spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux, auteur de nombreux ouvrages, dont Terrorisme et politique aux éditions du CNRS et Pourquoi perd-on la guerre chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur notamment de La guerre Iran-Irak, paru aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Les interventions américaines, israéliennes, turques marquent-elles de votre point de vue des tournants? Est-ce qu'il y a risque d'embrasement autour des conflits en Syrie et en Irak? Qui souhaite répondre, Gérard Chalion?
Moi, je veux bien. À mon avis, il n'y a pas de risque d'embrasement. Bon, le plus intéressant pour quelqu'un qui regarde les 5 ou 6 dernières années, c'est de constater que dans cette guerre civile, où il y a eu beaucoup de participants, dont indirectement la Turquie, les Saoudiens, l'Iran, les Russes, un peu les Américains, les Européens, pour l'instant, sur le terrain, les vainqueurs, ce sont les Iraniens. Ça, c'est une chose importante à bien comprendre. Et pourquoi est-ce qu'ils sont les vainqueurs dans cette affaire? Parce qu'ils ont eu une stratégie de bout en bout, bien articulée, avec un clergé organisé comme un véritable parti marxiste-léniniste, ou bien comme l'Église catholique le fut autrefois. C'est-à-dire que quand on dit « on fait quelque chose », ben on s'exécute et on le fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En définitive, ils sont intervenus sur le terrain, de façon discrète apparemment. Ils ont formé énormément de milices. Ils ont amené des gens d'Irak en Syrie, des chiites. Ils ont amené des milices chiites pakistanaises, des milices chiites afghanes, Hazara. Des gens d'ailleurs qui vont probablement rester sur place. Est-ce que par exemple, on peut imaginer qu'ils visent une espèce de recomposition relative du rapport sunnite-chiite en Syrie? Ça, c'est une hypothèse intéressante. C'est beaucoup plus intéressant que de pleurnicher sous prétexte qu'il y a eu 87 morts. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 87 morts? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de faire 87 morts, mais en même temps de paniquer des milliers de gens qui vont aller vers le nord, vers Idlib? Bon, ben ça, c'est de la stratégie. C'est pas de dire, bon, ben voilà, c'est pas bien, l'attentat, c'est large, c'est pas... etc. Voilà.
Général Trinquant, les vainqueurs, ce sont les Iraniens. Après ça, je vous demanderai à chacun de réagir. Général Trinquant.
Alors oui, ceux qui sont les moins visibles, j'allais dire, mais les plus présents, c'est certainement les Iraniens. En revanche, je pense que les mouvements de ces dernières semaines ont considérablement compliqué la donne en Syrie. Je parle de la Syrie. L'intervention russe en soutien du gouvernement de Bachar al-Assad et le soutien des Iraniens, bien sûr, depuis 3 ans, 4 ans, a fait apparaître la possibilité, en fait, d'une assise plus importante pour le gouvernement de Bachar al-Assad et le seul capable de négocier parce que l'opposition était très absente. Or en fait, l'intervention américaine brutale avec la frappe des Tomahawk à la suite de la frappe chimique qui vient d'être citée a compliqué considérablement la donne. J'ajoute que c'est un événement qui peut paraître mineur, mais qui à mon avis ne l'est pas. Le rapport fourni par les services français qui confirme qu'il s'agit bien de sarin et que donc c'est bien le gouvernement de Bachar al-Assad, même s'il n'y a pas eu d'enquête internationale. Je rappelle que la résolution du Conseil de sécurité demandait une enquête internationale qui n'a pas eu lieu, complique considérablement la donne parce que d'une certaine façon, ça affaiblit le gouvernement de Bachar al-Assad. Puisque si on arrive à prouver que de l'armement chimique a été utilisé et utilisé sur ordre du gouvernement de Bachar al-Assad, ça va être un peu plus compliqué de négocier avec lui. Hein. Donc ça, c'est le troisième point. Et les frappes, vous parliez des frappes israéliennes qui sont pas les premières, hein. Frappes contre le Hezbollah, parce que le Hezbollah reste l'ennemi majeur d'Israël. Tout ceci concourt d'une part à affaiblir le gouvernement de Bachar al-Assad, alors que sur le terrain, grâce au soutien des Iraniens et des Russes, ils progressent et donc on se retrouve avec une force militaire relativement importante qui tient de plus en plus de terrain et la difficulté de négocier avec une opposition qui, elle, est relativement faible.
Alors, attaque chimique dont le gouvernement syrien nie être l'auteur. Myriam Benrad.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En même temps, je pense qu'il faut se défaire un peu du sensationnalisme qui tend à l'emporter depuis plusieurs années là autour du conflit syrien, aussi des visions un peu manichéennes, binaires qu'on a. C'est un conflit beaucoup plus complexe que une simple opposition entre les forces du régime et la dite opposition, elle-même très éclatée. Ce qui est frappant aussi concernant le traitement de ce conflit, c'est au-delà des visions très divergentes de la Syrie qu'entretiennent les différents acteurs, au niveau des puissances régionales et de la communauté internationale, il n'y a absolument pas de vision de stratégie pour l'après guerre civile. On parle beaucoup de changement de régime, mais qu'est-ce qui vient après? Alors, de ce point de vue, ma question concernant les États-Unis, c'est est-ce qu'il y a vraiment un tournant? Parce que j'ai plutôt l'impression que les États-Unis et l'administration Trump, dans la continuité finalement d'Obama, est plutôt sur une position réaliste et a renoncé à un renversement de régime, sachant que ça conduirait à l'inconnu. Enfin, on a effectivement une présence milicienne iranienne très importante. Au-delà d'ailleurs des Iraniens, on a un certain nombre de mercenaires, de forces armées non étatiques, non conventionnelles, qui tiennent les territoires. Il y a aussi la question des chefs de guerre, hein, parce que quand je parlais de la vision un peu déformée qu'on a de ce conflit, les chefs de guerre font que dans le camp de Bachar al-Assad, les choses sont plus compliquées que cette vision qu'on a des forces loyalistes. Tout cela est d'ailleurs probablement en voie de complexification. On n'est pas sorti en tout cas de la guerre. On a été incapable de définir une vision politique pour ce pays dans la mesure où je pense aussi qu'on a cru qu'on allait vers un conflit de courte durée ou qu'on ait trouvé des solutions. Or, on voit bien que les acteurs, en fait, en tout cas au plan local, ne sont pas du tout dans une logique de paix, mais plutôt dans des dynamiques extrêmement brutales de conquête territoriale à l'heure actuelle, de sécurisation des gains territoriaux. Et donc ça rend le volet politique, mais enfin on va certainement revenir sur ces aspects, ça rend le volet politique très artificiel, y compris au niveau de ce qui est négocié aux Nations Unies.
En tout cas, une complexification des situations, c'est aussi vrai pour la Syrie que pour l'Irak, peut-être, Pierre Razou. Et il va sans dire que, ce que soulignait Myriam Benrad à l'instant, les enjeux géopolitiques sur toutes les situations, on parlera de Mossoul et la difficulté à reconquérir la ville depuis plus de 7 mois, mais un commentaire déjà sur ma première question finalement qui était, est-ce qu'il y a risque d'embrasement?
Alors sur votre première question, je voudrais juste insister rapidement sur 3 points. Donc sur votre question, je partage aussi l'avis de Gérard Chalian. Je crois qu'il n'y a pas de risque à court terme, en tout cas d'embrasement général, tant, et je nuancerai peut-être en disant, tant que Daesh garde ses bastions. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que quand la coalition internationale, les Russes, les Iraniens, les Turcs, tout le monde, auront reconquis Mossoul, Raqqa, Deir ez-Zor, Al-Qaïm, c'est-à-dire tous les bastions, le triangle infernal, tous les bastions de Daesh en Irak et en Syrie, tous les acteurs régionaux vont se retrouver face à face, face à leur rivalité, face à leur antagonisme. Là, pour le coup, ça peut commencer à chauffer un petit peu. Tant qu'il y avait Daesh, il y avait un tampon bien pratique pour tous ces gens-là. À partir du moment où vous enlevez le tampon, les rivalités et les ambitions géopolitiques des uns et des autres vont éclater et vont rentrer en choc frontal. Le deuxième point très rapide, c'est, je suis d'accord avec aussi Gérard Chalian sur, entre guillemets, l'avantage assez majeur pris par les Iraniens sur le terrain en ce moment, mais je nuancerai peut-être en disant les Russes aussi. Et je crois que on est en train de se diriger vers une sorte de condominium sur la région, enfin en tout cas sur l'Irak et la Syrie, avec, pour faire simple, les Iraniens qui contrôlent l'Irak, et la Syrie qui est partagée entre une influence iranienne et une influence russe. Et les Russes, pour le moment, ont leurs objectifs entre guillemets stratégiques, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est sauver le régime, c'est contrôler le littoral méditerranéen, et empêcher par tous les moyens tout le monde, y compris les Iraniens et les Irakiens, de contrôler des ports méditerranéens pour pouvoir exporter leur gaz et leur pétrole en direction de l'Europe et de la Méditerranée. Et donc, je vois à terme quand même des rivalités réelles entre l'Iran et la Russie. Je pense que c'est un point sur lequel on peut se poser de réelles questions. Et tous ceux qui partout stigmatisent à la fois l'Iran et la Russie, à mon avis, seraient... bien inspiré de réfléchir s'il n'y a pas un moyen, par exemple, au contraire, de jouer des coins de l'Iran contre la Russie, ou en tout cas, de jouer l'un contre l'autre.
Alors, jouer l'Iran contre la Russie, c'est une question pour laquelle, je ne sais pas, Gérard Chalian, si vous voyez un terrain possible pour cela, on parlera de Mossoul après.
Moi, je vous dirais qu'il n'y a aucune des alliances circonstancielles d'aujourd'hui qui soit ferme. Il y a des alliances avec la Turquie qui sont d'une fragilité considérable. Des alliances entre les Iraniens et les Russes sur des sujets sérieux sur lesquels ils vont pas changer d'avis. Et puis d'autres sur lesquels ils sont tout à fait pas d'accord. L'Iran a d'autres visées en Syrie que les Russes. C'est évident. Alors, bon, jusqu'où on peut jouer? Point d'interrogation. Encore ça, faut-il avoir la finesse de savoir jouer? Bon, jusqu'à maintenant, les Européens dans cette affaire, ils ont été mauvais. Oui, mauvais. C'est-à-dire qu'on a voulu que Saddam Hussein disparaisse sans savoir ce qui allait se passer après. Or, ce qui se serait passé après, c'est une prise de pouvoir des islamistes à Damas, ce qui aurait compliqué vraiment le jeu.
Alors, la disparition de Saddam Hussein, c'était tout de même d'abord les États-Unis, avant l'Union Européenne, Gérard Chalian.
Oui, bon, vous savez, les Américains n'ont pas été extraordinaires là-dedans. Il faut bien dire, sans passer pour pro-russe, que les Russes ont fait le travail que les Américains et les Européens auraient dû faire. On n'avait pas à penser que l'unique adversaire dans cette affaire, c'était l'État islamique. Pourquoi est-ce que Al-Qaïda, qui était l'ennemi principal il y a de ça 4 ans, est devenu en somme une force d'opposition semi-respectable sous prétexte qu'ils ont dit « nous ne sommes plus affiliés à Al-Qaïda et nous changeons de nom ». Ça change rien de la nature des mecs. Bon, donc tout ça, si vous voulez, ça n'a pas été très sérieux, voilà. Et puis... la situation est complexe, effectivement, elles veulent rester, et puis on a le sentiment, de part et d'autre, que la guerre va continuer pour la bonne raison que les gens pensent arracher à travers le conflit davantage qu'en négociant.
Alors, 7 mois que la reconquête de Mossoul, localité du nord de l'Irak, a été entreprise, quelles sont d'après vous les difficultés, les freins peut-être aussi? On a commencé de l'évoquer avec les enjeux géopolitiques qu'évoquaient Myriam Benrad et Pierre Razou. Pourquoi cette lenteur à sortir la ville du contrôle de Daesh? Est-ce qu'on peut douter quant à l'issue de l'offensive pour reprendre Mossoul? Est-ce que la défaite est si certaine que cela pour Daesh?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir sur la défaite de Daesh dans Mossoul. Maintenant, il ne faut pas être surpris non plus. Stalingrad, Beyrouth, enfin, on va rappeler tous les combats en zone urbanisée qui sont extrêmement compliqués et qui, dans Mossoul, en plus, sont d'autant plus compliqués qu'une grande partie des chefs de Daesh venaient de Mossoul. Donc, ils connaissent parfaitement la population, ils connaissent parfaitement la ville. Et dès le début de l'offensive ayant, je le rappelle, commencé par la zone kurde, en fait, l'approche par la zone kurde, tous les observateurs militaires qui regardaient ça disaient « ça, c'est la partie la plus facile, la plus difficile, c'est le cœur de la ville ancienne ». Ça, c'est le premier point. La situation aujourd'hui, en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que les djihadistes sont des gens qui combattent depuis plusieurs années, qui connaissent parfaitement leur métier. On peut les combattre idéologiquement, mais professionnellement, ils connaissent parfaitement leur métier. Et les derniers renseignements que j'ai obtenus sur les méthodes de combat sont absolument très intéressantes, étudiées, bien sûr, par les armées occidentales, parce que le binôme entre les véhicules explosifs et les drones étaient quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont beaucoup utilisé ces méthodes-là. Et en diminuant la capacité de l'armée irakienne à combattre, d'abord parce que dans la ville vieille de Mossoul, les blindés ne peuvent pas passer, les rues sont trop étroites, où il faut détruire les rues, donc les maisons, donc les populations, donc c'est pas possible. Donc déjà, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Mais en plus, en ayant inventé des méthodes de combat qui ont beaucoup surpris, qui ont fait énormément de pertes dans les troupes d'élite irakiennes. Et quand on dit qu'il y a 60 000 Irakiens qui combattent à Mossoul, c'est pas vrai. À l'intérieur, il y en a 5 000 maximum. parce que il n'y a que les troupes d'élite qui progressent, comme on dit, à la fourchette, avec le fusil, au corps à corps. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Chaque fois qu'il y a un véhicule explosif qui arrive, qui fait sauter le premier rideau de défense, puis le deuxième rideau, à ce moment-là, les djihadistes, eux, peuvent aller au combat au corps à corps et détruire ceux qui sont derrière. Donc, ça n'est pas surprenant. Ça fait 7 mois. Les bonnes nouvelles, c'est que des ordres ont été donnés pour que les djihadistes puissent maintenant sortir.
Alors,
c'est la bonne nouvelle pour, c'est la bonne nouvelle pour Mossoul. La mauvaise nouvelle, c'est que si on récupère les combattants d'élite, c'est pour les engager ailleurs.
Donc, ça veut dire que le combat.
Alors, le combat n'est pas terminé, ni en Irak, ni en Syrie, mais que Mossoul tombera très certainement. Dans combien de temps, je ne peux pas le dire.
Pierre Razou.
Oui, et justement, ça pose toute la question de est-ce qu'il faut ou pas laisser la porte de sortie de Mossoul ouverte? Et c'est exactement en termes de géopolitique ce sur quoi s'affrontent les principaux alliés. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, les Russes et les Iraniens n'ont aucun intérêt à laisser les djihadistes filer de Mossoul. Pourquoi ? Parce que les Russes se disent, si on laisse les djihadistes filer de Mossoul, ils vont aller sur Raqqa et sur Deir ez-Zor. C'est évident.
En Syrie.
Donc ils vont renforcer le front, entre guillemets, syrien de Daesh. Donc ils vont affaiblir le régime que Moscou et Téhéran soutiennent. Donc pour eux, il n'en est pas question. D'autant plus que la stratégie et des Russes et des Iraniens, c'est d'éradiquer les djihadistes, où qu'ils soient, en plus grand nombre possible, pour éviter qu'ils puissent ensuite revenir les titiller sur leurs frontières ou ailleurs. Les Irakiens, en revanche, les Américains, les Turcs, peuvent avoir intérêt à laisser sortir un maximum de djihadistes de Mossoul pour accélérer la prise de Mossoul et se targuer d'une victoire symbolique, et au passage, laisser ces djihadistes aller en Syrie et rendre plus difficile la tâche et du régime de Bachar et des Russes, et accessoirement des Iraniens. Et personne n'est d'accord sur cette stratégie qui est absolument cruciale pour l'avenir. Je note aussi que personne l'a souligné pour l'instant, mais la direction de Daesh dit avoir quitté Raqqa pour se rabattre sur Deir ez-Zor, c'est-à-dire beaucoup plus au sud. Ce qui veut dire que la direction de Daesh anticipe déjà et la chute de Mossoul et la chute de Raqqa, et se dit nous continuerons le combat à Deir ez-Zor, puis ensuite là où nous pourrons aller. Et là où ils pourront aller, c'est où? C'est vers le sud, évidemment. Parce que ce sera pas vers l'est, pas vers le nord, pas vers l'ouest, parce que tout est tenu et verrouillé par les acteurs régionaux. Et vers le sud, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite, c'est la Jordanie, c'est l'Égypte. Donc ces trois pays-là sont absolument paniqués actuellement par ce qui se passe.
Myriam Benran.
Oui, je vais rebondir sur ce qui a été dit. On a alors déjà des calculs cyniques, on a une constellation d'acteurs, et là je rebondis sur ce qu'avait dit Pierre Razou sur la possibilité effectivement d'affrontement post-État islamique qui est très probable. On a exactement la même dynamique en Irak. Tous les acteurs qui sont mobilisés contre l'État islamique ont des intérêts, des visions extrêmement antinomiques du combat. Il y a une gestion militaire au jour le jour. Il faut quand même bien souligner que derrière le dit conseil militaire qui coordonne les opérations militaires entre la coalition et les différents acteurs, tous ces gens se rencontrent sur le terrain, mais enfin les rapports ne sont pas des rapports au-delà des objectifs qui sont très cordiaux, en tout cas entre certains. Il n'y a pas de vision de l'après. J'insiste là-dessus. Les acteurs mobilisés, si on prend les Irakiens du reste, pour recentrer un peu sur l'Irak, certains sont plutôt dans une logique de rapprochement avec l'État central. Le gouvernement irakien, évidemment, joue aussi sa crédibilité dans cette histoire. Vous mentionniez la question de l'armée irakienne. Évidemment qu'ils sont très bons du côté de l'État islamique, parce que c'est quand même aussi beaucoup d'anciens officiers, d'anciens soldats. Là où l'armée irakienne commence à peine à reprendre le dessus, c'est l'enjeu aussi de recrédibilisation du gouvernement irakien. Abadi, le Premier ministre, le sait. En face de lui, il y a effectivement toutes ces milices chiites qui lui disputent la légitimité, avec lesquelles il essaie de procéder à un amalgame. Il y a eu une loi notamment qui légalise ces milices en vue d'essayer de les intégrer de plus en plus à l'appareil central. On a les Kurdes, mais du côté sunnite, on a une atomisation de la communauté sunnite aujourd'hui qui est encore plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Et les acteurs sont donc encore une fois tantôt dans une logique de rapprochement avec Bagdad, tantôt dans une logique d'autonomisation avec notamment le soutien de la Turquie qui a armé un certain nombre d'unités. Et on a ensuite tout un tissu tribal, social, qui est complètement atomisé, où on ne sait pas finalement avec qui travailler. Et ça, c'est le gros problème, parce que il y a aussi la question de la gouvernance dans ces territoires libérés. Là, aujourd'hui, on est totalement concentré sur Mossoul, mais si vous prenez des villes comme Tikrit, Ramadi, Fallujah, tous les sanctuaires armés de l'État islamique, on a une reprise des violences actuellement, des attentats, des attaques. L'État islamique n'a pas disparu pour la simple et bonne raison que, comme il a été souligné par les différents intervenants, c'est un groupe qui fait partie du pays
paysage. Hein. On a vu ces colonnes défiler en 2015, mais ils viennent pas de Mars. Hein. Ils sont irakiens, essentiellement locaux. Et il faut bien en faire quelque chose. Et là, il n'y a pas de vision.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Myriam Benrad, le général Dominique Trinquant, Gérard Chalian et Pierre Razou dans quelques instants. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la situation en Syrie et en Irak. Nous retrouvons nos invités. Myriam Benrad, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Limerick en Irlande. Son dernier ouvrage à paraître le 17 mai prochain, L'État islamique, prix Homo, aux éditions Armand Collin. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Gérard Chalian, géopoliticien spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux, auteur de nombreux ouvrages dont Terrorisme et politique aux éditions du CNRS et pourquoi perd-on la guerre chez Odile Jacob, et Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur notamment de La guerre Iran-Irak paru aux éditions Perrin. Myriam Benrad, je me tourne vers vous. On a terminé la première partie de l'émission. Vous évoquiez l'atomisation de la communauté sunnite en Irak. Est-ce que ça veut dire finalement affaiblissement?
C'est une communauté qui est affaiblie, mais enfin là, j'ai parlé d'atomisation parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt d'aller au-delà des approches qu'on a, hein, très, finalement aussi très médiatiques, de ces conflits, notamment de la crise irakienne. Pourquoi l'atomisation est importante? Parce que le conflit, y compris aujourd'hui donc à Mossoul, mais au-delà dans tout l'Irak, ne se limite pas à une opposition communautaire, hein, parce qu'on a parlé des milices chiites de l'État islamique, donc de cette polarisation d'ensemble, et de ce point de vue, c'est indéniable, ça a ouvert évidemment la voie aux Iraniens, ça ouvre la voie à la Turquie, ça permet une régionalisation autour de grandes lignes de faille, mais si on reprend le terrain irakien, et il en va de même pour la Syrie, les choses sont beaucoup plus complexes. Si vous voulez, cette communauté sunnite, elle était déjà très divisée au moment de l'arrivée de l'État islamique. D'ailleurs, de ce point de vue, juste une parenthèse, on va certainement réécrire l'histoire de la chute de Mossoul, hein, de 2014, parce qu'on pense avoir tout dit, mais on découvre aujourd'hui la face cachée de ce qui s'est passé.
C'est la prise de Mossoul par Daesh.
La prise de Mossoul par Daesh. En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'on avait une ville qui était quand même très divisée, que tous n'avaient pas adhéré au projet panislamiste de l'État islamique, que des familles entières ont implosé parce que certains fils étaient partis militer, avaient pris les armes donc du côté de l'État islamique, etc. Tout cela est très complexe. C'est bien pour ça que je parle de vision, en fait, parce que on parle en fait plus profondément de la redéfinition de l'Irak. Qu'est-ce que l'Irak? Qu'est-ce que l'identité nationale de l'Irak? Et je vais rajouter juste une chose. On a tendance à quand même beaucoup mettre en avant les exactions des milices, les interventions régionales, etc. Juste sur une petite note d'optimisme, cette armée irakienne qui s'est débandée en 2014, qui n'était pas très 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 aimée, très appréciée des populations, voire détestée, il faut quand même dire une chose, c'est que actuellement, quand ces mêmes sunnites de Mossoul voient les officiers arriver, les libérer, et que les choses se passent bien, ça va, et il y a une forme de soulagement. Et on assiste quand même à une forme de solidarité entre Irakiens, qui est ce sur quoi on doit jouer sur un plan politique. Parce que personnellement, quand on parle de partition, d'autonomisation, etc., ce sont des scénarios auxquels je ne crois pas, qui vont conduire l'Irak dans le mur, qui vont certainement conduire la Syrie aussi dans le mur si on persiste à vouloir jouer les apprentis sorciers. Et donc il faut aller dans le sens de notre côté. Il faut essayer de soutenir ces dynamiques. Et c'est bien pour ça que ce que fait l'armée irakienne comme actuellement, cette même armée sur laquelle on tend à beaucoup cracher, excusez-moi hein, si on lit ce qui est dit, elle est instrumentale dans cette bataille de Mossoul et en Irak pour essayer de rassembler un peu ce qui a été complètement défait depuis plus de 13 ans. Et une dernière chose, l'armée, c'est l'Irak en réalité, hein, parce que c'est quand même un pays qui s'est construit autour de son armée, c'est une institution centrale, et ces mêmes milices aujourd'hui qui ont regagné la mobilisation populaire et qu'on tend à vouloir faire revenir vers les forces régulières, ces mêmes milices qui sont chiites, elles ont un discours nationaliste. Hein. Elles parlent de libération nationale. Donc on a quand même plutôt intérêt à favoriser ces dynamiques au lieu de toujours s'attacher, parce que bon, j'ai envie d'être un peu optimiste aussi, à ce qui ne va pas. Il y a quand même une dynamique proprement irakienne à l'œuvre.
Un commentaire sur cette question, sur ce que vient de dire Myriam Benrad, je ne sais pas, Pierre Razou.
Oui, alors justement, j'aimerais rebondir sur le nationalisme irakien. Alors ça tombe bien, parce que c'est justement ce que j'ai étudié dans mon bouquin sur la guerre Iran-Irak. Il y a une vraie, non pas opposition, mais on risque d'arriver face à un schisme. C'est-à-dire que d'un côté, on reconnaît qu'il ne faut surtout pas changer les frontières, il ne faut pas fédéraliser trop et la Syrie et l'Irak, etc. D'un autre côté, la réalité, c'est que si on laisse l'armée irakienne, j'allais dire, se reconstituer comme elle était historiquement, Alors, historiquement, l'Irak a toujours fait son nationalisme et son unité sur contre, on va dire, trois adversaires. Un, les Kurdes. Deux, les Iraniens et la question du Châtel arabe. Trois, le Koweït. Alors, si on reprend tous ces arguments les uns après les autres, je ne suis pas sûr que les acteurs régionaux qui, eux, géopolitiquement, sont influents dans la région aujourd'hui, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, aient envie d'avoir une nouvelle guerre contre les Kurdes en Irak, aient envie d'avoir une tension très forte avec l'Iran, notamment pour les Iraniens eux-mêmes, ou d'avoir de nouvelles velléités de réannexer la 19e, ou entre guillemets, la 19e province de l'Irak. Ça, c'est les Saoudiens, clairement, et les Américains. Donc, je pense que quand on élimine ces scénario-là, la plupart des gens se disent, bon, bah, finalement, peut-être que malgré tout, une autonomisation plus forte des sunnites, par exemple, en Irak, ou des Kurdes en Syrie, c'est peut-être la moins mauvaise des solutions. Et je pense que cette grande crise régionale ne se résoudra, bien sûr, une fois que l'hypothèque Daesh aura été levée, que quand les acteurs régionaux s'entendront sur, un, quel avenir politique pour les sunnites en Irak, et deux, quel avenir politique pour les Kurdes en Syrie.
Général Trinquant.
Oui, au risque de complexifier un peu le sujet et de noircir le tableau, nous sommes en géopolitique et nous avons évoqué, mais pas parlé de la Turquie. Mais les changements, les bouleversements actuels en Turquie sont fondamentaux à plusieurs titres. Je rappelle que la Turquie fait jusqu'à maintenant partie de l'OTAN. Le restera-t-elle longtemps ? Si le gouvernement du président Erdogan continue sur sa lancée actuelle. Et donc, l'influence de la Turquie de M. Erdogan sur la recomposition en Syrie va être absolument majeure. Ces velléités de pseudo-empire ottoman ailleurs sont essentielles. Et donc, je pense que nous avons pour des années dans cette région avant d'une stabilisation, d'une reconstitution, d'une absence de combat. On l'a dit, les djihadistes, alors évidemment, les uns veulent qu'ils sortent de Mossoul, les autres ne veulent pas qu'ils sortent de Mossoul. Pardonnez à un militaire crûment de vous dire, plus ils seront morts, plus je serai satisfait. Parce que là aussi, c'est des menaces contre nous, c'est la Libye, c'est etc. etc. Donc, l'éradication, pardonnez-moi d'employer ce mot-là, des djihadistes est un devoir que nous devons avoir pour la protection de nos pays. Malheureusement, évidemment, ça a des conséquences importantes dans le règlement de la crise régionale.
Alors, éradication des djihadistes, perte de territoire, est-ce que cette éradication signifiera aussi perte de l'influence ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de combattants qui sont allés en Syrie et en Irak s'entraîner pendant des années. Tout cela ne va pas disparaître du jour au lendemain,
Gérard Chagrin. Il y a deux choses distinctes. Il y a d'une part le terrain, proprement dit, où effectivement il s'agit d'éradiquer au maximum ce qui peut l'être. Ce qu'on appelle l'État islamique est en train de perdre. Ils se sont illustrés, en partie grâce à nos médias d'ailleurs, comme étant extrêmement importants et en disant « nous territorialisons ». Par ailleurs, la frontière entre la Syrie et l'Irak n'existe plus et nous sommes là de façon pérenne. La preuve, le califat, c'est nous. Aujourd'hui, ils vont perdre, bien sûr, Mossoul, c'est-à-dire que la frontière entre la Syrie et l'Irak, elle continue d'exister. Leur territorialisation se réduit comme une peau de chagrin. Raqqa va tomber aussi. Ça, c'est une chose.
Mais territorialisation qui se déplace sur le sud, ce qu'évoquait Pierre Razou précédemment.
Ce ne sera plus une territorialisation, ce sera une incursion avec une tentative de déstabilisation ici ou là. Ce n'est pas la même chose. La territorialisation, c'est foutu. Ils ont bluffé tout le monde et puis ils ont eu trop d'adversaires à la fois. Le poker, ça ne marche pas toujours. L'idéologie, par contre, elle reste. C'est-à-dire que cette idéologie, elle chemine et il y en a pour un paquet de temps. Cette idéologie absurde, à mon avis, menant à l'échec, mais ça va durer 10 ans, peut-être davantage, parce qu'elle est encore vendable. Il y a des gens qui ont le sentiment de participer à une épopée, et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ça va se déplacer. Il va y avoir, effectivement, d'autres terrains. Ce qui a été indiqué tout à l'heure comme terrain possible, la Jordanie, par exemple, un terrain faible, la Jordanie. Heureusement qu'ils sont soutenus par les Américains, c'est-à-dire que les États-Unis vont pas laisser la Jordanie s'effondrer. Les Israéliens non plus. Il y a un point faible aussi en Arabie Saoudite. Les Saoudiens, ce sont des alliés très ambigus. Après tout, c'est eux qui ont semé la merde partout depuis maintenant 40 ans. Ils ont vendu un islam militant, extrêmement dur, de l'Afrique subtropicale jusqu'à l'Indonésie. Mais maintenant, ça leur retombe sur le dos, c'est-à-dire que le djihadisme, ils n'en voulaient pas, surtout pas contre eux-mêmes. Et alors, on en a finalement à souhaiter que ce régime ne s'effondre pas, Parce que s'il s'effondre, alors là, c'est grave. On va voir. Quant à l'Égypte, bon, alors, le revenir est derrière eux pour l'instant.
Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Gérard Chalion et Myriam Benrad.
Oui, je suis assez d'accord sur l'idéologie. On voit bien qu'il y a transmigrance en fait du terrorisme. Bon, on a beaucoup parlé des représailles, donc du fait qu'à cette déterritorialisation, enfin la perte des territoires, allait répondre des actes à l'étranger. Moi, je vais nuancer ça. Il y a toujours eu le double objectif de constitution du dit califat dans le monde musulman, mais les attaques contre l'Occident, contre l'ennemi occidental tel qu'il le définit, ça reste aussi un objectif, enfin dans l'absolu. Alors, je crois qu'il faut pas non plus essayer de couper en permanence les théâtres, voir les choses de manière plus systémique. On a une menace djihadiste, une idéologie qui est très résiliente, qui trouve différentes incarnations. On a mentionné Al-Qaïda, c'est pareil. Cette distinction qu'on a voulu établir de manière dogmatique entre Al-Qaïda et l'État islamique, Al-Qaïda veut constituer un État islamique, tout comme d'ailleurs un certain nombre de factions islamistes et djihadistes qu'on a dites modérées en Syrie, dont l'objectif est la constitution d'un régime islamique. Qu'on parle d'un émirat ou d'un État, c'est propre à tous ces mouvements. Donc là, je trouve aussi qu'on a fait, en tout cas du côté occidental, du bricolage concernant l'identification de potentiels alliés ou concernant ce corps doctrinaire idéologique qui est propre à ces mouvements. Et donc aujourd'hui, ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on a tous ces articles dans la presse américaine concernant le retour d'Al-Qaïda. Mais Al-Qaïda n'a jamais disparu, l'idéologie n'a jamais disparu. Et comme le disait très justement Gérard Chalian, c'est un péril, un danger pour des décennies qui aujourd'hui pénètre nos sociétés de manière quand même très inquiétante. On n'est plus dans la clandestinité, dans la marginalité. C'est devenu quelque chose de quasi mainstream. Et là où je suis d'accord aussi avec vous, c'est les médias. Alors, on ne va pas généraliser, mais enfin, il y a eu quand même cette... Je parlais de sensationnalisme au départ, dans le traitement de la question de l'État islamique, dans la centralité aussi qu'on a donnée à ce mouvement. On a fait tout de même aussi un peu leur jeu, connaissant leur narcissisme, leur arrogance, leur... On a quand même assez largement dans ce traitement public de la question fait le jeu. Une dernière chose, la propagande. Comment appréhender la propagande? Comment lutter contre cette propagande? Parce que ça, c'est pareil, on est sur des dispositifs qui sont insuffisants. Et évidemment, toutes les failles sont exploitées, continueront d'être exploitées. Donc je crois qu'il faut avoir une vision plus large sur le long terme. Et peut-être une dernière chose tout de même, je ne suis pas tout à fait d'ailleurs d'accord avec Pierre Azou sur le fait que les puissances régionales vont forcément déterminer l'avenir des sunnites en Irak, parce qu'il y a quand même un rejet, en tout cas de la part de certains, de cette idée de voir leur destin déterminé par d'autres. Mais ce qui est évident, c'est que tant que ces États resteront faillis, qu'on parle de l'Irak, de la Syrie, en partie de l'Égypte, ou d'autres États faibles, on ne pourra pas régler ces crises. Parce que ce que demandent les populations civiles, on n'en a pas discuté, avant tout, c'est la sécurité, les institutions, de la gouvernance. Tout cela s'est complètement effondré, en tout cas dans certaines parties de ces territoires.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Benrad. Je souhaiterais juste, pour terminer cette émission, il nous reste quand même quelques minutes confortables, la question de la violence et du chaos de l'État islamique, d'Al-Qaïda. Est-ce qu'on peut parler justement de sorte d'inversement proportionnel à la perte de territoire? C'est une question. Et autre chose, les États-Unis. Est-ce que la frappe évoquée dans la première partie de l'émission en réaction à l'usage des gaz chimiques, est-ce que tout cela marque un retour de Washington dans la région? On peut mentionner aussi la récente visite du secrétaire d'État américain à Riyad. On sent une volonté nouvelle de la Maison-Blanche de maintenir le dialogue avec l'Arabie Saoudite et une volonté finalement de Donald Trump de ne pas rentrer dans les sabots d'Obama. Général Trinquant.
Alors sur ces deux questions, la première, la violence et le chaos, je reprends un peu ce que vient de dire Myriam. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est celle dans nos sociétés. Le but est évidemment de fracturer nos sociétés. On ne va pas faire de politique électorale actuellement, mais plus il y a radicalisation dans la société, plus il y a fracture, et donc plus il y a de place pour la violence et le chaos. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous concerner en tant que citoyens, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, la frappe en Syrie, je pense que l'administration Trump, là, visait plus l'Asie que la Syrie.
La Corée du Nord, en l'occurrence.
Oui, parce que la mise en scène est intéressante. C'était pendant le dîner avec le président chinois. Et on annonce au président chinois, ça y est, j'ai frappé, regardez, je suis capable de frapper, 59 Tomahawks, faites attention, en Corée, je suis capable de ça. Et ensuite, il négocie sur des affaires financières, économiques, etc. Donc c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle un coup indirect. Alors en revanche, le coup direct, parce que les Tomahawks sont tombés quand même, hein, moi, à mon avis, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées, parce qu'il n'y a pas de plan derrière. Une fois qu'on a dit, c'est un petit peu comme, si vous voulez, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il y a eu frappe de sarin, puisqu'on le définit aujourd'hui, donc c'est le gouvernement de Bachar al-Assad, donc on diabolise le gouvernement de Bachar al-Assad. Or, à un moment, il faudra bien discuter avec Bachar al-Assad. Donc on rend les choses beaucoup plus compliquées, et ce qui m'inquiète dans la réaction américaine, c'est que, si vous voulez, je comprends bien la frappe à visée stratégique vers l'Asie, mais en fait, ponctuellement, ça a complexifié le sujet sans apporter une solution.
Alors, la stratégie américaine sur la question, elle est en pleine élaboration, Pierre Azou.
Je crois que l'establishment américain à Washington a sifflé la fin de la récréation pour Donald Trump. C'est-à-dire que pendant les fameux 100 jours, ils lui ont laissé faire un petit peu, enfin lui et Tillerson, essayer de s'exprimer, d'avancer leurs propres pions. Et puis là, il leur montre, bon maintenant c'est fini, on revient sur ce qu'on connaît. Et on voit bien que tout l'establishment recadre en fait Trump et ses proches conseillers pour leur dire, voilà, en fait, on va refaire globalement ce qu'on a toujours fait. Et on est en train de voir ça. Alors, on fait tout ce qu'on a toujours fait, sauf qu'il y a deux facteurs. C'est qu'aujourd'hui, les Iraniens et les Russes contrôlent, à mon avis, réellement et effectivement cette grande zone, Syrie, Irak, etc. Et donc, on risque d'assister dans le futur à l'exportation, encore une fois, des djihadistes vers le sud. C'est-à-dire qu'une fois que c'est le régime de Bagdad, de Damas, aura repris le contrôle du pays, ils vont pas vouloir garder les djihadistes chez eux. Donc, ils vont les envoyer plus loin vers le sud. Et là, ça va reprovoquer des tensions. Le dernier point, c'est le prix du pétrole. Trump fait des grands sourires à tout le monde, aussi bien aux Russes et aux Saoudiens et aux monarchies du Golfe. Mais par derrière, il leur tord le bras en leur disant « je vous fais des grands sourires, mais je maintiens le prix du baril très bas et je vous mets dans une situation économique très difficile pour vous forcer à discuter et à négocier ».
Gérard Chalian, en guise de conclusion, on l'a bien compris, ça a été dit par chacun. Tout cela va durer et durer longtemps parce que la reconquête des territoires et des villes que nous évoquions, Mossoul, Raqqa, tout cela va prendre un temps énorme. Et comme l'évoquait Pierre Razou, il faudrait des négociations politiques entre les grands sur la région.
Bon, ce n'est pas pour demain. On va voir ce que vont faire les Américains, mais ce ne sera pas radicalement différent, bien qu'ils vont être bien plus actif que M. Obama, qui avait le souci, d'une part, de l'Ukraine, où il a gagné, et le souci de la mer de Chine, où il n'a rien laissé entre les mains des Chinois pour l'instant. Donc, il y a ça. Par ailleurs, l'idéologie va continuer. Et ce qu'on peut dire, c'est que, sur le long terme, les djihadistes, après avoir fait énormément de perturbations, ne vont déboucher sur rien de sérieux, et qu'en définitive, la chose importante qui s'est passée dans les 20 dernières années, c'est la montée de la Chine. Le reste, c'est du folklore.
Myriam Benrad.
Oui, rapidement sur le fait que les djihadistes n'ont pas de projet. Enfin voilà, bon, en tout cas ça, l'idéologie ne disparaît pas, mais cet épisode d'État islamique montre que s'il était besoin de le démontrer, que cette utopie d'État islamique de retour au califat n'est qu'une utopie, et que j'insiste là-dessus. Enfin c'est mon opinion, la nation, l'État-nation reste l'horizon de cette région. On aura beau, si vous voulez, essayer de on peut parler d'autonomie, de fédéralisme, ça c'est une chose, mais continuer à jouer les apprentis sorciers en parlant de partition, de fragmentation, de redessiner la carte de la région, je pense que c'est reporter ad vitam aeternam le problème. Cette région doit être aujourd'hui stabilisée et c'est la demande d'ailleurs des populations. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est ce que veulent les civils qui ont quand même payé le tribut de ces guerres et qui continuent de le payer au quotidien.
Alors, montée de la Chine qu'évoquait à l'instant Gérard Chalian, on peut juste rappeler que Pékin, pour la première fois depuis le début de la crise en Syrie, a refusé d'accompagner la Russie dans son veto au Conseil de sécurité le 12 avril. C'est peut-être un précédent intéressant. Merci. En tout cas, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Myriam Benrad, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Limerick en Irlande. Son dernier ouvrage à paraître le 17 mai prochain, L'État islamique pris au mot, aux éditions Armand Collin. Le général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Gérard Chalian, géopoliticien spécialiste de l'étude des guerres et des conflits internationaux, des conflits armés internationaux, et auteur donc également de nombreux ouvrages. ouvrages, dont Terrorisme et politique aux éditions du CNRS et Pourquoi perd-on la guerre, et Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur notamment de La guerre Iran-Irak, paru aux éditions Perrin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la place de la France dans le monde.